La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Les plantes dominent l'ensemble de l'environnement terrestre et elles forment plus de 99% de sa biomasse. En comparaison, les êtres humains, tous les autres animaux ne sont que quantité négligeable. C'est ce que nous rappelle Stefano Mancuso, qui est professeur de biologie végétale et qui publie L'intelligence des plantes pour parler de leur sensibilité et de la communication dans le monde végétal. Sujet controversé autour du terme même d'intelligence et qui s'inscrit dans un grand courant visant à réhabiliter le monde végétal et en expliquer les mécanismes au grand public. Stefano Mancuso dirige en Italie un laboratoire donc de neurobiologie végétale. Il est mon invité dans un instant à l'occasion de la sortie en France de son livre sur l'intelligence végétale et vous pouvez lui poser dès maintenant vos questions en nous rejoignant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, un nouveau scénario pour expliquer l'arrivée de l'eau sur Terre.
Et oui, les comètes et les météorites du grand bombardement ne suffiraient pas à fournir toute l'eau de notre planète. Il faut trouver d'autres scénarios. C'est ce qu'on fait avec le géochimiste Jean-Alix Barra dans un instant.
Et c'est Étienne Bertin qui réalise notre tête au carré aujourd'hui, préparée par Chantal Le Montagnier avec Anna Massardier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Stefano Mancuso.
Bonjour.
Bienvenue à vous, l'intelligence des plantes. C'est donc ce livre qui sort aujourd'hui traduit en français chez Albin Michel avec ce domaine qu'on ne connaît pas bien en France, la neurobiologie végétale. C'est cette discipline que vous avez fondée en Italie. Est-ce que c'est un domaine qui fait beaucoup débat dans votre pays ?
Il y a eu beaucoup de discussions parce que ça semble étrange parler de neurobiologie avec les plantes. Mais malgré cela, les plantes peuvent être considérées comme des êtres qui ont des capacités cognitives. Je pense que nous en parlerons pendant l'émission.
Voilà, des êtres avec un niveau de complexité, comme on le verra avec vous, et des stratégies qui sont assez fascinantes. On en discute effectivement ensemble pour évoquer toutes ces facultés sophistiquées avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Stefano Mancuso, à tout de suite. Mais d'où vient l'eau qui se trouve sur notre planète? Une belle et grande question qui trouve de nouvelles réponses aujourd'hui et c'est à la une de la science.
Dès que l'on a compris que les comètes contenaient une énorme quantité de glace, il a paru raisonnable de penser qu'en frappant la Terre, elles ont apporté cette glace qui aurait fondu pour donner naissance aux océans.
Voilà, ça c'était la voix du célèbre astronome américain Toby Owen, interviewé en 2008. Mais aujourd'hui, des théories nouvelles arrivent et selon une étude récente menée par des chercheurs américains et français, le bombardement massif de météorites et de comètes qu'a subi la Terre n'a pas suffi pour apporter toute l'eau présente aujourd'hui sur notre planète. Elle aurait tout simplement pu être là déjà avant, une drôle d'histoire qui nous amène donc Axel au tout début de l'histoire de la Terre et qu'on décrypte avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes au téléphone avec Jean-Alix Barra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géochimie à l'université de Brest et vous êtes co-auteur de cette publication dans la revue Science Advances. Alors, pour commencer et pour situer un petit peu, de quelle quantité d'eau est-ce que nous parlons aujourd'hui ?
Alors, ça dépend. Si vous vous placez sur la Terre complète, c'est-à-dire de la surface jusqu'aux zones les plus profondes, on va parler d'une quantité d'eau qui est de l'ordre de 10 à 3 océans.
Trois océans, vous dites océan, c'est l'eau qui est à la surface, c'est ça ?
Voilà. Oh. Donc pour visualiser les choses, je préfère parler en volume d'océan.
D'accord. Et voilà. Pourquoi 10 à 3, c'est très incertain comme estimation ?
Ouais, mais attendez, on n'a pas été jusqu'au bout. Hein. Donc en fait, c'est très incertain, mais en fait, on sait qu'il y en a beaucoup plus que celles que l'on voit. Et c'est déjà bien.
Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, on a pensé que cette eau était arrivée par les comètes et les météorites alors ?
Oui, on avait de bonnes raisons pour ça. La bonne raison, c'est qu'on a compris l'histoire de la Terre et de la Lune. Mmh. Et on a compris que la Lune s'est formée il y a plus de 4,5 milliards d'années, quand il y avait notre proto-Terre qui a été impactée par une planète de la taille de Mars. Mars attaque pour de bon.
ça veut dire qu'à ce moment-là, l'eau aurait disparu.
Voilà. Alors, on a eu une catastrophe monstrueuse et on a facilement imaginé que la quasi-totalité de l'eau terrestre avait été volatilisée et a été perdue dans l'espace.
Et elle serait donc revenue ensuite via ces comètes et météorites. D'accord.
Voilà, parce que notre histoire est assez compliquée. On a une histoire longue après cet épisode de plus de 4,5 milliards d'années. Et après donc cet épisode, on a eu la Terre a été poivrée par de la matière extraterrestre qui aurait alimenté la Terre en eau. En autres volatiles d'ailleurs.
Et vos travaux aujourd'hui viennent chambouler un peu toute cette histoire puisque vous affirmez que ces bombardements ne suffisent pas à apporter toute l'eau de la Terre. Comment est-ce que vous obtenez ce résultat ?
Alors ça va être un peu compliqué de rentrer dans les détails.
On s'accroche.
Tenez-vous bien. Donc en fait, on va revenir à 4,5 milliards d'années. Uh-huh. On a un cataclysme gigantesque. On peut parler de cataclysme, hein, c'est ce qu'il y a de plus catastrophique qui puisse arriver à notre planète. Et à ce moment-là, donc l'ensemble Terre perd son eau. De la matière se sécrète à côté de la Terre pour former la Lune, toute sèche. Et puis, il se trouve que, à ce moment-là, la Terre et la Lune présentent des similarités de composition extrêmes. Mmh. Voilà. En particulier pour un élément qui est l'oxygène.
Voilà. Comment on en arrive jusqu'à l'eau, alors ?
Alors, il se trouve que après 4,5 milliards d'années, donc on reçoit des matériaux. La Lune aussi reçoit des matériaux, mais pratiquement rien par rapport à la Terre. Et la composition de la Terre va évoluer avec cet apport de matériaux extérieurs. Et comme on connaît la composition, certaines caractéristiques chimiques de la Lune, eh bien on va pouvoir estimer, quantifier la quantité de matière qui est arrivée sur notre planète et dont la quantité d'eau.
Et c'est là qu'on en arrive au moment où vous dites qu'il n'y en a pas assez, c'est ça ?
Exactement. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas eu d'eau qui est arrivée tardivement, mais on dit que cette quantité d'eau, elle est très inférieure au volume d'un seul océan. D'un seul océan mondial.
Jean-Alix Barra, au moment de sa formation, donc si je vous suis bien, hein, il y avait déjà de l'eau sur Terre, en fait, c'est ça ? Cette proto-Terre dont vous parliez tout à l'heure, l'eau était déjà présente ?
Oui. Alors, je vais rectifier un petit peu les choses. Il pouvait y en avoir, ou bien elle a pu être apportée par l'impacteur.
Ah, quand même, oui.
Voilà. Mais le plus facile à envisager, c'est qu'il y en avait avant.
Pourquoi on a si peu d'informations sur cet objet qui a percuté la Terre ? Comment est-ce qu'on l'imagine et comment est-ce qu'on pourrait revenir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé ?
Alors, on pourrait revenir en arrière déjà si on avait des fragments de la Terre d'avant et de cet objet. Oui. Et je vous cache pas que ce serait un grand rêve, d'avoir un morceau des deux.
Est-ce qu'on peut les trouver quelque part encore ? C'est vraiment possible d'en trouver ?
C'est pas impossible.
Vous êtes très vague.
Oui, parce que imaginez une catastrophe monstrueuse, deux planètes qui rentrent en collision, des débris des deux objets qui sont retrouvés après 4,5 milliards d'années, après un grand voyage dans l'espace, c'est possible.
Mais ce serait où sur Terre, alors, Jean-Alix Barra ? Vous avez une adresse déjà ou pas ? Parce que je sens que vous savez des choses, mais que vous ne voulez pas nous le dire.
Et je ne dirai pas tout.
Donc vous savez.
Non, je ne sais pas tout. Non, mais il y a des candidats possibles, évidemment. On a le droit de rêver. Encore faut-il le démontrer. Ouais. Sinon, on fait des fake news.
Mais c'est extrêmement compliqué, effectivement, puisqu'on est sur des datations très lointaines. Axel, encore une question.
Malgré tous vos mystères, est-ce que pour vous, c'est définitif ? Il faut réécrire les livres de SVT et arrêter de penser que l'eau est arrivée simplement par les comètes et les astéroïdes, quand même.
N'hésitez pas. Abandonnez l'idée ancienne.
Ah, vraiment ? Vous allez jusque-là avec cette publication, d'accord.
Ouais.
Mais alors, quand est-ce que ce sera reconnu, officiellement, le terme n'est pas tout à fait approprié, mais si on en arrive à changer les manuels scolaires, à partir de quel moment ça pourrait réellement être envisagé, alors, Jean-Alix Barra?
Vous me posez des bonnes questions. Non, en fait, c'est le temps qui va faire son œuvre.
Il va falloir que d'autres chercheurs confirment vos résultats aussi, j'imagine.
Oui, bien sûr. On n'est pas les seuls à travailler sur ce sujet. Et puis, il y a des collègues qui vont essayer de valider les choses.
Voilà, et ce sont des idées nouvelles qui font aussi avancer la science, mais qui demandent du temps, parce que c'est ça aussi la méthode scientifique. Merci beaucoup Jean-Alix Barra. Et Axel, on se retrouve bien demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les câlins modifieraient l'ADN des neurones chez les bébés souris. Les scientifiques savaient déjà que l'ADN des cellules du cerveau se modifiait jusqu'au sevrage. Et bien, dans cette nouvelle étude, deux groupes de souriceaux ont été étudiés par les généticiens américains, l'un cajolé et l'autre délaissé par la maman souris. Pour chercher à connaître l'impact de ces câlins, ils ont ensuite échangé ces deux groupes avant leur sevrage, ce qui a eu pour effet de modifier certains gènes de leurs neurones. Les implications ne sont pas encore clairement établies, mais selon ces chercheurs, l'apparition de certaines pathologies psychiatriques comme la dépression ou la schizophrénie pourraient se jouer pendant cette période clé du sevrage, avant le sevrage. Les navigateurs vikings auraient-ils vraiment voyagé avec la légendaire Pierre de Soleil? Marins hors pair et conquérants des mers, ils auraient selon la légende parcouru des milliers de kilomètres sans compas mais guidés par de grosses pierres cristallines. Et pour confirmer cette idée, une équipe de chercheurs anglais a réalisé des tests avec plusieurs types de cristaux et la technique consistant à regarder le ciel à travers la pierre pour déterminer l'emplacement précis du soleil malgré les nuages. En prenant le soin de les consulter régulièrement, eh bien les chercheurs ont atteint leur destination dans quasi 100% des cas. De quoi penser donc que les vikings, malgré le brouillard et la pluie, sont allés bien au-delà de l'Islande grâce à de simples cristaux de cordierite ou de calcite. Et puis quand les araignées font du ballon, certaines araignées, en plus de tisser des toiles, utilisent également leur soie pour voler. Elles lancent leurs longs fils dans le vent pour planer parfois sur de longues distances. Eh bien, l'expérience a été menée dans une soufflerie de l'Université technique de Berlin. Des chercheurs ont observé 14 grandes araignées crabes dans ces démonstrations de ballooning. Ils montrent que ces aventurières ne sont pas pour autant suicidaires. Elles testent d'abord la vitesse et la température du vent avec leurs deux pattes pendant plusieurs secondes avant de décider de décoller ou non. Les bonnes conditions sont donc une brise douce, chaude, qui ne dépasse pas les 3 mètres par seconde. La vidéo du décollage d'araignées sont visibles sur la page Facebook de l'émission. Allez, on parle de l'intelligence des plantes dans un instant.
I love you.
I Love You, c'était la voix de Mathieu Bogaerts.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Voilà, l'intelligence des plantes, c'est donc ce livre qui sort chez Albin Michel en France et que vous signez, Stefano Mancuso, pour évoquer donc la sensibilité, la communication dans le monde végétal, ouvrage qui a été traduit dans plus de 20 langues maintenant. Vous êtes professeur à l'Université de Florence et vous dirigez le Laboratoire international de neurobiologie végétale. Les auditeurs nous rejoignent déjà avec des questions pour vous sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. On peut déjà aborder hein, ce laboratoire créé donc en 2005, Laboratoire de neurobiologie. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'étudie cette discipline ? Parce que le terme, évidemment, accolé à des plantes, nous paraît un petit peu étrange. Parce que quand on parle de neurobiologie, on est dans le système nerveux, on est dans le cerveau, mais on n'est pas chez les plantes.
Si, è vero.
Oui, c'est vrai que
il termine neurobiologie
est normalement utilisé exclusivement pour les animaux dotés de cerveau et de système nerveux. Quand nous avons commencé de neurobiologie pour végétal en 2005, évidemment, il y avait quelque chose de provocateur.
Tuttavia, è bene
Toutefois, c'est bien de rappeler que les neurones, il y a moins de raisons qui font qu'on peut effectivement on peut parler de neurobiologie végétale
de
manière appropriée. La première est un peu lexicale. Le sens de neurone est vraiment de fibre végétale. Elle vient de la parole de neurone en grec qui veut dire fibre végétale. Végétale. Mais avant de parler de ça,
de ce sophisme linguistique,
les neurones sont la capacité principale des neurones, des cellules, qui sont en capacité de produire et de transporter des signaux électriques. Ça, c'est la caractéristique des neurones. Mais chez les animaux,
les
seules cellules qui sont capables de faire ça, ce sont les cellules du cerveau, de notre cerveau, système nerveux, et quelques autres exemples. Mais chez les plantes, au contraire, toutes les cellules du corps de la plante sont capables d'envoyer et de transporter des signaux électriques. Donc, de ce point de vue, même si anatomiquement, mais du point de vue fonctionnel, les cellules végétales sont en fait assez proches des neurones.
Pourquoi vous avez voulu provoquer, alors, en employant ce terme, en 2005. Vous aviez envie justement que la science si. Change un peu ses paradigmes.
Mais la question
est fondamentale et au fond de tout ça, c'est que les plantes sont, selon moi, sans aucun doute, des êtres capables de cognition. Elles sont capables de résoudre des problèmes, d'apprendre.
De communiquer,
d'avoir des relations sociales. Donc de dérouler toutes les fonctions que normalement nous associons toujours et seulement au monde animal. Alors, la provocation initiale était vraiment celle-ci. Commençons à regarder ce 99% de la vie que jusque-là on a ignoré, qui a les mêmes capacités,
même
parfois des capacités différentes de celles des animaux, mais que nous n'avons jamais regardées, même de loin en fait.
Parfois même plus de capacités autour des sens, on en discutera avec vous dans un instant, Stéphane. Alors, c'est vrai que quand on parle de cette discipline en France, quand on parle de l'intelligence végétale, on voit des scientifiques, des biologistes hein, qui lèvent les yeux au ciel, qui détestent qu'on emploie ce type de mots, justement, qui crient à l'hérésie. Vous les rencontrez, évidemment, régulièrement. Est-ce que les choses sont un petit peu en train de changer ou est-ce que finalement c'est très clivant et il y a deux camps, ceux qui font partie de votre mode de pensée et les autres ?
C'est vrai que vous avez raison. Il y a beaucoup de biologistes qui n'acceptent pas du tout l'idée de l'intelligence végétale. Mais le nombre de chercheurs qui, en France et dans le monde, change beaucoup. Il est toujours en train d'augmenter.
La question
n'est pas aussi hérétique qu'il le paraît. C'est simplement une question de définition. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Comment on peut la définir? Il est possible de donner toutes les définitions. Il y a des millions de définitions pour l'intelligence. On peut simplement la réduire à l'homme ou à quelques animaux qui sont semblables à l'homme. Et ça c'est ma vision, on peut avoir une idée plus inclusive de l'intelligence. Et alors utiliser une définition comme capacité de résoudre des problèmes. Alors si nous utilisons cette définition, les plantes ont à plein titre des êtres intelligents. Je dirais dis plus, tous les êtres vivants sont intelligents de ce point de vue-là. Parce que ça serait un paradoxe de l'évolution que des êtres vivants ne sont pas capables de résoudre des problèmes ont pu évoluer.
On va écouter justement Olivier Baudot, qui est un doctorant en philosophie de la biologie et qui s'exprimait en 2013 au micro de France Culture, justement, dans l'émission Le Goût du Savoir, pour donner aussi son point de vue sur cette définition de l'intelligence des plantes.
Souvent, quand les scientifiques parlent d'intelligence végétale, ils veulent entendre, je pense, cognition, c'est-à-dire une capacité à traiter de l'information, à faire des choix entre les différentes manières de répondre à une situation. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas l'idée de mettre du sens dans les choses. Et je pense qu'il faut se méfier à ne pas confondre entre cognition et conscience. Les auteurs qui parlent d'intelligence végétale ne parlent pas de conscience végétale au sens d'un vécu, d'une intériorité, d'une subjectivité, d'une capacité à souffrir, à désir, à craindre et ce genre de choses. Ils parlent vraiment d'une intelligence opérationnelle d'une certaine manière.
Stéphano Mancuso, voilà, l'intelligence opérationnelle des plantes. Vous êtes d'accord avec ça? Finalement, c'est pas mal d'en faire la distinction.
Oui, je suis d'accord. Sur le fait que les plantes ne soient moins conscientes. Je pense qu'on peut parler de conscience végétale aussi.
C'est-à-dire? Alors, il ne faut pas nous lâcher ça comme ça, il faut nous dire ce que vous...
C'est-à-dire encore, que cosa intendiamo per coscienza?
Qu'est-ce que nous entendons par conscience?
Nuance di significati un po' vaga.
Conscience peut avoir des sens avec plein de nuances à définir. Mais parlons de. Les plantes sont conscientes de leur position dans le milieu. Moi, je dis de si. Elles sont parfaitement conscientes du milieu physique qui les entoure et aussi des comportements des êtres vivants qui ont des relations avec elles.
Ça, vous l'avez observé par exemple sur le système racinaire qui réagit précisément en fonction de l'environnement hostile ou pas?
Oui, les radicis sont
les racines sont probablement la plus intéressante des plantes, probablement.
Et en effet...
En effet,
Darwin
disait déjà que tout être vivant, le pôle cognitif et le pôle reproductif sont toujours opposés sur le corps. Pensons à notre corps. Nous avons le pôle cognitif et le pôle reproductif qui sont opposés. Alors les plantes, ce que j'aime dans les plantes et les fleurs, c'est que l'appareil reproducteur, ça veut dire que la partie cognitive est à l'opposé, elle est sous terre, dans les racines, dans les parties plus protégées. Et donc si nous regardons les comportements des racines, comme elles se déplacent dans le terrain, comme elles essayent de trouver leur nourriture, comme elles dépassent ces obstacles, on est obligé de voir des similitudes avec le comportement animal.
Mais par quel processus, justement, une racine est capable de s'adapter, de changer sa position, de rebrousser chemin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme mécanisme là-dedans, alors?
C'est une question un peu complexe. Chaque racine d'un appareil racinaire est capable de percevoir au moins 20 paramètres physiques et chimiques. Nous, ça, nous savons. La gravité, la lumière, le gradient, les métaux pesants, les métaux lourds, etc.
et de décidere,
et de décidere donc et de décider donc
dove andare,
où aller
in accordo con quello che
en sente. Accord avec ce qu'elle ressent.
La cosa non è semplice,
ce n'est pas simple du tout.
Ci possiamo avere l'acqua a destra e l'azoto a sinistra.
On peut avoir l'eau à gauche et
allora,
l'azote à droite.
Come decidiamo?
Comment on va décider ça? La décision est une décision de groupe.
L'intero gruppo degli apparati radicali.
Et ça c'est une décision qui est prise par l'appareil racinaire en son ensemble. De ce point de vue, elles ne sont pas du tout différentes d'un essaim de fourmis, une colonie de fourmis. C'est peut-être la manière la plus correcte de voir pour considérer l'intelligence d'un appareil racinaire, c'est faire cette comparaison avec une colonie de fourmis.
Donc c'est presque un individu social, le système racinaire. Hein. C'est un petit peu comme ça que vous nous le présentez.
Oui, exactement.
Et
même l'idée d'individu, c'est difficile à appliquer à une plante. L'individu, littéralement, ça vient du latin individus, qui veut dire que ce n'est pas quelque chose de pas divisible. Alors, les êtres humains, normalement, ne peuvent pas être divisés. Mais une plante, oui. Une plante peut être divisée en mille morceaux et ne pas mourir, et même se propager ainsi. L'idée d'individu ne peut pas s'appliquer aux plantes.
Stefano Mancuso, vous êtes notre invité cet après-midi. Les auditeurs vous écrivent, il y a des messages déjà pour vous, et ils réagissent aussi à ce terme d'intelligence des plantes. On se retrouve dans quelques minutes après avoir écouté Mélissa Lavaux et les messages sur franceinter.fr. Mélissa Lavaux à l'instant sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Petits orques, bourrin.
Il parle, Mary. L'arbre parle.
Un arbre. Je ne suis pas un arbre. Je suis un Ent.
Un arbre gardien. Le berger de la forêt. Ne lui parle pas, Mary. Ne l'encourage pas.
Sylve Barbe, c'est ainsi qu'on me nomme.
Et vous êtes de quel côté ?
Un côté ? Je ne suis du côté de personne, parce que personne n'est du mien. Petit orque, personne ne se soucie des forêts à présent.
Sylve Barbe, l'arbre qui parle, l'arbre vivant dans Le Seigneur des Anneaux, pour parler de l'intelligence des plantes avec notre invité Stefano Mancuso. Et ce livre écrit avec Alessandra Viola, qui paraît en France donc chez Albin Michel, et de nombreuses années après la sortie en Italie d'ailleurs. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps? Alors c'était combien? En 2013, c'est ça chez vous?
Il a été publié en 2013 en Italie et... Il devait être publié suite après et aussi en France et puis il est arrivé et puis il y a eu des problèmes avec la maison d'édition originelle et
ouais.
Et donc nous avons dû attendre jusqu'à aujourd'hui, mais c'est mieux comme ça.
Voilà. Énorme succès, et vu le nombre de pays qui vous réclament, hein, puisque vous êtes traduit absolument partout, et on vous invite dans le monde entier justement pour discuter de ce thème de l'intelligence, il faut du temps. D'ailleurs, depuis, vous avez écrit combien d'ouvrages depuis la sortie de celui-là? 3, hein, c'est ça, en Italie, en plus?
Oui, j'ai 3 autres livres, oui.
Toujours sur ce thème?
Oui, plus ou moins, oui.
Et on fait toujours des découvertes?
Disons que oui, parce que, par exemple, par rapport à ce premier livre, toute la partie de la mémoire végétale et de l'apprentissage n'a pas été traitée. Et aujourd'hui, nous savons beaucoup de choses sur ces questions.
On entendait l'arbre qui parle dans Le Seigneur des Anneaux à l'instant. Est-ce qu'on peut parler d'un langage, justement, chez les plantes?
Oui, les plantes communiquent beaucoup. Elles ne parlent pas, évidemment, mais elles utilisent pour la communication des particules volatiles chimiques. Elles sont capables d'échanger des informations par rapport au milieu, par rapport aux éléments pathogènes, aux prédateurs, des choses très sophistiquées. Par exemple, il y a quelques mois, mes collaborateurs a publié un travail où on démontrait qu'un groupe de plantes soumis à un stress... en mettant du sel dans les racines, ces plantes produisaient des messages qui étaient perçus par un autre groupe de plantes qui immédiatement augmentaient sa résistance au sel. Sans la vraie présence du sel.
Oui. C'est-à-dire que la plante réagit vraiment à tout ce qui se passe dans son environnement et à la chimie du sol.
Oui. Disons que, en général, il y a une chose fondamentale à dire sur les plantes. Que la grande différence qui existe entre les plantes et les animaux, c'est que le fait que les plantes ne peuvent pas bouger. Elles bougent beaucoup, mais elles ne peuvent pas se déplacer de là où elles sont nées. Donc, ça change tout. Si tu es enraciné dans le sol, la première chose est soumise à des prédations. Donc tu ne peux pas te défendre, tu peux pas te défendre en t'échappant comme font les animaux. C'est pourquoi que le corps des plantes est construit d'une manière différente. Nous sommes habitués à regarder les organes et donc à voir les organes et à comprendre s'il y a des fonctions. Si un animal a des yeux, nous savons qu'il voit. S'il a des oreilles, nous comprenons qu'il entend. Mais les plantes n'ont pas des yeux ou des oreilles, ni des poumons, ni d'estomac, ni rien de tout ça. Et donc nous pensons qu'elles n'ont pas les fonctions. Mais c'est pas vrai. Les plantes n'ont pas les organes parce que les organes simples ou doubles sont des points faibles. Si une plante avait deux poumons, un estomac, des deux yeux, n'importe quel insecte qui lui fait un petit trou dans le suffirait pour l'aveugler. Donc les plantes ont distribué sur tout leur corps toutes ces fonctions que nous, les animaux, nous concentrons dans les organes. Et ça, c'est une énorme difficulté de...
Stéphane Moncoso, il y a énormément de messages pour vous des auditeurs, donc je vous les transmets. Il y a Jean-Paul qui nous dit, justement, est-ce que la différence, ce ne serait pas que notre intelligence à nous, les humains, est centralisée, alors que celle des plantes est largement décentralisée? C'est exactement ce que vous nous décrivez. Hein.
C'est exactement ça. Non, pas seulement l'intelligence, mais toutes les fonctions de la plante sont distribuées et décentralisées, alors que nous avons un cerveau qui contrôle nos organes. Et l'importance de ce modèle est souvent nous échappe parce que nous avons construit tout, nos sociétés, nos instruments, comme nous sommes construits nous.
Justement, Richard nous dit, après avoir négligé, combattu, ignoré, dominé le monde végétal, l'être humain subitement prêterait aux plantes des capacités cognitives qui, bien sûr, sans doute existent, dit Richard. Mais ce retournement de situation comportementale ne cède-t-il pas à un anthropomorphisme ambiant? Alors, cette faculté, justement, de toujours vouloir comparer à l'humain.
Cette question de l'anthropomorphisme, dans un certain sens, nous ne pouvons pas éviter parce que nous sommes des hommes. Donc, par force, forcément, nous voyons les choses à travers nos yeux. Donc, mais il est vrai que chaque fois qu'il y a véritablement un manque de mots pour décrire les plantes. Parce que tous les mots qui décrivent les comportements ont toujours été utilisés pour décrire des comportements animaux. Quand je dis qu'une plante joue, évidemment, ça a drôle de son à nos oreilles. Parce que nous avons toujours été habitués à des jeux des animaux. Et donc ça, c'est une question très complexe. Nous devons ou trouver des nouveaux mots pour décrire des comportements des plantes, mais je trouve que c'est un peu stupide. Moi, je pense que c'est plus efficace d'élargir la définition et pour comprendre les plantes, elles aussi.
Mais justement, ce terme d'intelligence des plantes, d'intelligence végétale, est-ce qu'il est employé dans les congrès scientifiques? Entre scientifiques, est-ce qu'on ose parler de ça, ou est-ce que finalement c'est un terme aussi qui est employé avant tout pour le grand public?
Oui, c'est vrai que, disons que dans 2005, pour nous comprendre, il n'était pas possible d'utiliser, non pas seulement intelligence végétale, mais on ne pouvait même pas parler de comportement végétal. C'était interdit. Le comportement végétal, c'était une chose qui n'existait pas. Aujourd'hui, il n'est pas passé beaucoup de temps, et disons 13 ans, et il y a des chaires de comportements végétaux, des laboratoires d'intelligence végétale. Et je pense que donc, cette nouvelle vision des plantes s'affirme aussi avec une rapidité que je n'aurais pas franchement parié.
Mais on voit le changement aussi chez de grands biologistes, hein, Francis Allais par exemple, que vous connaissez bien, qui est venu à ce micro de nombreuses fois, que vous avez rencontré, et qui a aussi changé de point de vue sur la question même du... quasiment de la question du cerveau, hein, parce que là encore c'est un mot très tabou, mais au moins sur l'intelligence végétale.
Oui, c'est vrai. Avec Francis Allais, nous avons eu, des années, des discussions justement sur l'intelligence végétale. Et aujourd'hui, Francis est parfaitement à son aise à parler d'intelligence végétale dans l'exception de capacité et de résoudre des problèmes.
Bon, pour autant, il y a encore du travail à faire avec pas mal de biologistes dans ce domaine. Rémi nous dit, j'ai entendu que certains arbres africains émettent des substances lorsqu'ils sont attaqués par des gazelles pour avertir les autres arbres qui alors produisent une odeur nauséabonde pour éloigner ces animaux. Exemple parmi tant d'autres, hein, Stéphane Moncoso.
Il y en a beaucoup d'exemples. Aussi une simple plante de tomate ou de faillot sans aller jusqu'en Afrique. Quand il y a des insectes qui mangent leurs feuilles, elles produisent des substances qui avertissent les autres de l'attaque qui est en cours.
Elisabeth demande si les plantes sont réceptives au contact physique des humains. Ça a été étudié, ça, ou pas, sérieusement?
Non, ça n'a pas été étudié, le contact humain. En général, les plantes n'aiment pas être touchées, de manière générale.
Mm-hmm.
On peut faire une très simple expérience. Si on prend deux vases, et si on met deux haricots dedans,
mm-hmm.
comme on le fait à l'école primaire, et qu'on fait croître ces deux plantes, de la même manière,
et une
plante on la touche pendant une minute chaque jour, et l'autre non. Après deux semaines, on voit que la plante qui a été touchée est restée naine, elle est restée plante, alors que l'autre a beaucoup plus grandi.
Foutez la paix à vos plantes vertes, c'est le message. On se retrouve dans un instant. Stéphano Mancuso, l'intelligence des plantes, ça paraît chez Albin Michel. Duran Jones and the Indications avec Smile.
La tête au carré sur France Inter.
Voici des épines d'acacia. Le professeur Martin Heil les connaît bien. Il étudie ce qui est peut-être le meilleur système de défense du monde végétal, celui des acacias, qui poussent jusqu'à la plage. Normalement, nous explique Martin, les acacias savent très bien se défendre. Et il nous montre comment. Il suffit de tapoter et de souffler un peu pour les apercevoir. Les fourmis. Les acacias sont protégés par des fourmis agressives qui ne connaissent pas la peur. Elles s'accrochent et piquent comme des guêpes. Martin en fait la meilleure expérience.
Voilà notre invité Stefano Mancuso pour ce livre « L'intelligence des plantes » chez Albin Michel et Olivier Favier qui est sur la traduction. Alors on entend là un système de défense très intéressant grâce aux fourmis. Alors là aussi on a plein d'insectes, sur la coopération, plein d'exemples sur la coopération entre les insectes et les plantes.
Oui, disons que les plantes sont, justement du fait qu'elles ne peuvent pas se déplacer du poste où elles sont nées, font des politiques, on va appeler comme ça, de symbiose, avec les insectes, avec les champignons, les bactéries, avec tous les types d'organismes. Il suffit de penser à la pollinisation, où les plantes doivent convaincre les insectes de transporter leur pollen. Mais la question des fourmis auxquelles on est très importante et intéressante, parce qu'elle nous fait voir une relation entre les plantes et les insectes.
Qui est
une vraie symbiose dans où les deux membres ont des avantages, tirent des avantages. Aujourd'hui, nous savons que ces avantages sont plus complexes que ce qu'il ne paraît aujourd'hui. Parce que les plantes sont capables de manipuler les fourmis à travers la production de substances qui sont neuroactives, qui sont produites dans le nectar de la plante. Les fourmis se nourrissent de ce nectar. Et la plante réussit à manipuler le niveau d'agressivité en fonction, grâce à la chimie. Ce sont des relations plus complexes qu'elles peuvent paraître.
Est-ce que c'est toujours pour tirer un avantage, d'ailleurs, que ces coopérations existent entre une plante et un insecte ?
Oui, la coopération, normalement, on parle de symbiose quand les deux membres ont un avantage. Mais très souvent, on commence à parler de manipulation. Dans la manipulation, il n'y a qu'un seul membre qui tire des avantages de tout ça. Et très souvent, ce sont les plantes.
Les orchidées sont des manipulatrices, par exemple.
Oui, les orchidées sont l'exemple classique. Beaucoup d'orchidées trompent les insectes à travers des formes, des odeurs, pour faire transporter le pollen sans rien donner en échange, sans produire aucun nectar.
Alors évidemment, il y a plein de stratégies aussi pour le transport des graines, et ça c'est absolument fascinant, parce qu'il y a le vent certes, mais il y a aussi le fait d'utiliser d'autres animaux pour aller semer beaucoup plus loin.
Oui, il y a les mécanismes de transport de la semence et de la graine est très fascinant, parce que les plantes ont appris à utiliser tous les vecteurs, qu'ils soient physiques, le vent, l'eau, des vecteurs biologiques comme les animaux, l'homme inclus. Il y en a qui disent que nous sommes le meilleur vecteur possible pour une plante. Ce n'est pas exclure que quelques plantes ont produit des choses qui nous plaisent pour que nous puissions les transformer, les transporter dans le monde.
Le singe frugivore aussi, évidemment, au travers des excréments, qui peut comme ça répandre des graines sur des territoires très répandus. Alors Jeanne nous dit sur Facebook, quelle différence majeure est-ce que vous faites d'abord entre le règne animal et végétal ? Première question, vous pouvez y répondre, Stéphane Moncuso.
Moi je dirais que il y a deux différences. La première, c'est l'immobilité. Contre la mobilité. Nous, les animaux, nous sommes caractérisés par le mouvement. Nous appelons animaux parce que nous sommes animés. Et donc, nous déplaçons. Et notre manière de résoudre les problèmes, c'est par le mouvement. C'est si vrai que nous avons résolu un problème quand nous l'avons évité. Nous évitons les problèmes. Nous ne cherchons pas à les résoudre, les problèmes, nous. Les plantes sont obligées de résoudre les problèmes qui se posent pour elles. Ça, c'est la grande différence, qui évidemment a une série énorme de conséquences.
Julien nous dit merci pour cette émission et pour la découverte de votre discipline, mais que vont bien pouvoir manger les végétariens et autres véganes s'il est avéré que les plantes sont des êtres sensibles et intelligents? Et alors, il y a une autre question de Jeanne sur Facebook qui nous dit « L'argument de la souffrance végétale qui donne lieu à l'expression moqueuse du cri de la carotte est-il recevable ?» Alors, Stefano Mancuso.
Donc, commençons avec la souffrance, la douleur.
Exactement,
la réponse scientifique correcte serait que nous ne le savons pas encore. Mais moi, je dirais que les plantes ne ressentent pas de souffrance, de douleur, parce que ressentir de douleur, parce que ça n'aurait pas davantage d'évolution pour elles. Parce que la souffrance a du sens par rapport aux animaux qui peuvent se déplacer du lieu qui produit, de ce qui produit la douleur. Dans le cas d'une plante, le corps entier de la plante est construit pour être une proie. C'est pour ça qu'elle n'a pas d'organes, c'est pour ça qu'elle peut... Donc de ce point de vue, ça n'aurait pas de sens pour une plante de ressentir de la douleur.
Donc on ne le sait pas aujourd'hui, hein, mais selon vous, il n'y a pas de souffrance dans le domaine végétal?
Nous ne le savons pas, mais je crois qu'il n'y a pas de souffrance dans le règne végétal.
Est-ce qu'il y a, demande Antoine, des espèces de plantes qui seraient plus intelligentes que d'autres? Les espèces différentes communiquent-elles entre elles également? Alors, il y a deux questions. D'abord, est-ce qu'il y a des différences sur des niveaux d'intelligence ou pas?
Sur le niveau d'intelligence, nous ne savons pas. Probablement qu'il y a... Oui, il y a des plantes qui sont particulièrement brillantes et que nous étudions beaucoup. Ce sont les plantes grimpantes, par exemple.
Ah, ça, vous appelez ça des plantes brillantes, c'est ça? Ah oui, pourquoi alors? Parce qu'elles arrivent à se répandre énormément?
Parce qu'elles arrivent... elles sont capables de produire plein de solutions nouvelles. Par exemple, au lieu de construire des grands troncs en dépensant beaucoup d'énergie pour utiliser la lumière, pour arriver à la lumière, elles utilisent d'autres supports pour arriver au même niveau beaucoup plus rapidement, à la même solution.
Mm-hmm. Donc il y aurait une sorte de hiérarchie entre certaines espèces de plantes, sur leur capacité en tout cas.
Je ne dirais pas que, qu'il y a des hiérarchies d'intelligence, mais sûrement les plantes à fleurs, qui sont les plantes les plus modernes, le nombre de solutions possibles est énorme, mais beaucoup plus haut.
Est-ce que différentes espèces de plantes arrivent à communiquer entre elles? C'était la seconde partie de la question de notre auditeur Antoine.
Non. Ça, c'est une question très intéressante. Il y a différents niveaux de communication. La même espèce communique mieux avec ses propres parents, avec le propre clan, son propre clan. Après, il y a un niveau de communication avec les autres plantes de la même espèce et avec les plantes d'autres espèces. La seule chose, c'est juste un cri de secours.
Thierry nous dit « Je consomme très régulièrement de l'ortie. Ortica, est-ce que ces plantes régulièrement coupées deviennent plus urticantes afin justement de se protéger ?» Alors, les piquants de l'ortie, est-ce que c'est une protection ?
Une protection, oui.
C'est un système,
c'est un système classique physique de protection des animaux. Ce n'est pas parmi les plus sophistiqués. Il y a des systèmes beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus intelligents pour résoudre le même problème dans le monde des plantes.
Et alors les sens, parce qu'ils sont limités chez l'homme, mais vous dites qu'il y a une kyrielle justement chez les plantes. Un exemple, par exemple, de sens que nous ne possédons pas, nous les humains.
Les champs électriques, par exemple, les champs magnétiques. Les niveaux de chimiques dans cette plante, dans cette pièce. S'il y avait une tonne d'azote, moi je le saurais pas. Une plante peut en percevoir un milligramme.
Stefano Mancuso, vous êtes également à la tête d'une start-up hein, avec l'Université de Florence pour mettre au point justement des travaux autour du biomimétisme, hein, parce qu'on on étudie énormément ces intérêts-là chez les plantes et on essaie de les reproduire. Pourquoi par exemple? Quelles sont les technologies qui sont nées de vos recherches autour des plantes?
Énormément de choses peuvent se découvrir à partir du mécanisme énergétique. Pensons simplement à si nous arrivions à réussir à reproduire la photosynthèse.
Oui.
Nous aurions un système d'approvisionnement énergétique propre, illimité jusqu'à la fin des temps. Et en voyant l'aspect matériel, les plantes sont pleines de matériaux qui se déplacent sans utiliser une énergie interne, mais seulement en utilisant l'énergie du milieu. Et puis les médicaments, la nourriture, tout se peut se trouver au niveau des plantes.
Le champ est absolument illimité et les recherches se poursuivent. En attendant, on peut lire cet ouvrage « L'intelligence des plantes » chez Albin Michel, « Sensibilité et communication dans le monde végétal » dont vous êtes l'auteur Stefano Mancuso avec Alessandra Viola. Et merci à Olivier Favier qui a assuré la traduction de cet entretien.